Concours de critique par le père Philippe à Saint-Jodard, le 2 juin 1992.
l'intuition de Kant, le noumen, nous ne le connaissons pas. La réalité, je la connais pas. Je connais mes idées. Je connais mes concepts. Je ne connais pas la réalité. Je la touche. Mais de l'extérieur, ce n'est plus in tous les tuerais. Le lire de l'intérieur. C'est très significatif. D'où le jugement d'existence va s'exprimer datur en latin. Datur. Il est donné. Le fait d'exister, donc le fait d'exister, ceci est donné. Oui, c'est le donné. Ceci est donné. Il y a une réalité qui existe. Il y a un mur qui existe. Qu'est-ce qu'il est, j'en sais rien. Je ne connais pas la réalité. Je ne connais que ce que je conçois. Ce que j'appréhende. Donc, l'acuité. Là, vous saisissez bien le partage entre le jugement d'existence ou l'intelligence au-delà des sens. Saisit ce qui est. Et le point de vue de l'appréhension qui commande toute ma connaissance intellectuelle. Et donc la réalité existante, c'est un fait. Et puis c'est tout. Et à partir de là, vous voyez donc que la critique devient première. Ce n'est plus la réalité qui commande ma vie intellectuelle. C'est le vécu de l'appréhension. Ce qui est appréhendé, l'acuité, les formes en soi. Ça, c'est le grand tournant européen de la philosophie. Et qui, par le fait même, a eu une influence sur toute l'Amérique. Oui. Si on ne voit pas ça, je crois qu'on ne saisit pas comment on aboutit à ce qui est actuel. Le datur. Heidegger, quand il parle du jugement d'existence, dit c'est le es gibt, ceci est donné. Oui. Donc on trouve exactement le même jugement d'existence. Il n'a pas dépassé Occam. Il est resté devant Occam. D'où, forcément, l'être n'est plus atteint par l'expérience, au-delà de l'expérience. L'être ne peut être atteint que négativement par la pensée qui refuse tout le reste. Vous voyez, si ce qui est le datur esquipte, ceci est donné, c'est le donné. Si ce qui est donné, c'est la réalité, ce n'est pas atteint par l'intelligence, c'est l'étant. Il faut nier ce fait d'exister, l'étant, pour que l'intelligence, se réfléchissant sur elle-même, découvre l'être. Donc l'être est saisi à partir de ma pensée et dans ma pensée. Ce n'est donc plus la réalité. D'où la réaction de Merleau-Ponty, l'être sauvage. Parce que saisir l'être à l'intérieur de ma pensée, c'est un être civilisé. C'est un être conventionnel. Il a tout à fait raison. Il faut saisir l'être brutalement. Mais Merleau-Ponty n'a pas repris avec suffisamment de netteté ce jugement d'existence. Mais alors, quand Heidegger dit l'oubli de l'être, en réalité, c'est l'oubli du jugement d'existence. Je crois que ce serait beaucoup plus juste de dire ça. Il y a eu l'oubli du jugement d'existence depuis Occam. Donc alors vous voyez tout ce que on a depuis cette erreur, et c'est très simple comme erreur, c'est très peu de choses. La différence de dire ceci est le tout de suite montrer l'erreur d'Occam qui provient tout simplement d'une méconnaissance du jugement. Le jugement n'est pas l'addition d'appréhension, mais c'est quelque chose de nouveau. C'est ma capacité de connaître qui se sert des sens pour atteindre la réalité. C'est le primo cadit in intellectus ens de saint Thomas. Ça, il faut essayer de le saisir. C'est capital pour comprendre la position philosophique qui commence par le jugement d'existence et non pas par un datour. Ceci est donné. Parce que ça conduit nécessairement à Occam. Ah, Kant nous mène, je ne sais pas ce que c'est, je le constate. Oui. Après ce jugement d'existence, donc ce que je viens de vous dire, c'est un nota bene par rapport au jugement d'existence, pour montrer la déviation. Il a fallu des siècles et des siècles de pensée pour découvrir le jugement d'existence, alors que c'est si simple. C'est tout simplement la simplicité de l'intelligence qui dit ceci. Rien de plus simple. Revenez tout le temps à l'exemple. Hein. Vous allez au marché. Vous voyez des carottes. Et vous demandez à celles qui vendent les carottes. Est-ce qu'elles existent, ces carottes? Ou bien tout simplement, vous dites, oui, je vous fais confiance. Il y a des chances, puisque vous les vendez, elles doivent exister. Oui, c'est le datour. Il s'est donné, mais je ne sais pas ce que c'est. Il y a des quantités de gens qui n'ont jamais fait du jugement d'existence. Des quantités. Parce qu'on vit dans un coton imaginatif. Alors on vit dans ses idées, dans ses bulles. Et on attend qu'elles s'éclatent. Le jugement d'existence par rapport à ceux qui sont avec nous. Ou est-ce qu'on dit, ah mais oui, on est 40 numéros. Ou est-ce qu'on dit, ah non, je suis en face de quelqu'un. Si je suis chrétien, que le Seigneur a envoyé près de moi. Et je dois le découvrir. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est? Profondément. Son âme. Puisque découvrir ce qu'il est, c'est découvrir son âme. Si je ne touche que sa peau, je ne découvre pas ce qu'il est, les apparences. Si je ne regarde que ses cheveux, les apparences. Si je ne regarde que ses pieds, les apparences. Le corps, c'est l'apparence. Tandis que si je veux savoir ce qu'il est, ah, la source de son âme. Son âme. Et l'oubli de l'âme vient de là. À partir de là, vous oubliez l'âme. Vous êtes en face d'un mannequin ou un fantôme ou une réalité. Il y a quelque chose. Et ce que vous avez dans un doux sommeil quand vous vous réveillez et que vous ne savez plus où vous êtes, vous touchez. Il y a des objets, oui, ça existe. Qu'est-ce que c'est? Ça existe. Vous savez pas du tout ce que c'est. Vous restez dans l'imaginaire. Le second saisie de l'intelligence ultime, c'est au terme de l'induction qui conduit à l'être en acte. Cette saisie de l'être en acte. Ceci est en acte. Ceci est l'être en acte. Vous voyez, c'est donc là quelque chose de nouveau. Ce n'est plus la constatation expérimentale ou méta-expérimentale. C'est l'analyse que vous faites de ce qui est la fin de ce qui est. Le principe final de ce qui est. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Quand je saisis l'être en acte distinct de l'être en puissance, si propre de ce qui est du côté de la finalité. C'est donc le principe propre de la finalité au niveau de l'être. C'est très étonnant, ça. Tout ce qui est en puissance est relatif à ce qui est en acte. Tout ce qui est en puissance dépend actuellement de ce qui est en acte. La puissance, l'être en puissance, ne peut jamais être premier. L'être en puissance est toujours second. Il est toujours relatif. Seul l'être en acte peut être premier. Et donc l'être en acte a une autonomie unique. Il peut être par lui-même en tant qu'il est en acte. Et dans la mesure où il est en acte, il est en lui-même. Tandis qu'au contraire, l'être en puissance n'est jamais premier. Il est toujours relatif. Mais réfléchissez, tout ce qui est en vous, en puissance, est relatif. C'est un examen de conscience philosophique fameux. Tout ce qui est en vous est en puissance est relatif à ce qui est en acte. Ce qui est en acte en vous, là, c'est pas relatif. Alors qu'est-ce qui est en acte en vous ? Examen métaphysique, ça. Réflexion métaphysique. Conscience métaphysique de ce que je suis. Et c'est par là qu'on traitera ce qu'est la personne humaine. La personne humaine n'est pas une réalité en puissance. Votre personne, c'est ce qui en vous est en acte. Alors, chez certains, la seule chose qui est en acte, c'est leur exister. Ils existent, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils font là ? Ils n'en savent rien. Ils sont des... Parce qu'ils sont, relatifs. Relatifs aux propagandes, relatifs à la télévision. La personnalité humaine aujourd'hui, c'est être relatif à la télévision. Aucune autonomie dans le jugement, dans leur cœur, aucune. Ils existent. Comme des chou-fleurs. Ils existent. C'est terrible. Hein. C'est ce côté terrible de la métaphysique. Hein. Parce que c'est le fil à plomb, vertical. Ça, on verra ça l'année prochaine, ce que c'est que la personne humaine. Mais ici, je réfléchis sur cette découverte de l'être en acte, distincte de l'être en puissance. Et je saisis, au niveau de l'être, le principe de finalité. Et je vois que je ne peux pas saisir le principe de finalité au niveau de l'être sans avoir saisi l'être en acte. Or, l'être en acte, je l'ai saisi au terme d'une induction. Et je peux donc dire tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Vous voyez donc que les deux jugements extrêmes de ma pensée, de mon intelligence, c'est ceci est. Tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Alors ça, je crois qu'une fois qu'on a saisi l'être en acte, distinct de l'être en puissance, alors comprenez bien au plan critique hein, la différence de la saisie de ce qui est l'être en acte et l'être en puissance et la relation que vous faites entre les deux. Si j'ai la saisie de l'être en acte, immédiatement, je comprends que l'être en puissance est second. Il ne se tient pas par lui-même. L'être en puissance, il ne se tient pas par lui-même. Il est tout le temps relatif. Il est assommant, il est relatif. Il court après. Tout le temps. L'être en puissance, il court toujours après. On voit des êtres en puissance errants, vous savez. On comprend très bien que l'être en puissance est errant. C'est la fameuse causalité matérielle de Platon. C'est l'être errant. Il ne demeure pas en lui-même. Il ne peut pas. ce qui n'a rien de déterminé. Tandis que l'être en acte, il est. Et il est parfaitement dans lui-même. Il est, il a sa tenue propre d'être en acte. Il a quelque chose qui est unique, il est. C'est quelque chose d'assez étonnant quand on comprend bien ce que ça veut dire. L'être en acte, il est en acte. L'être en puissance, tout entier relatif. Je peux alors, à ce moment-là, découvrir les cinq modalités du principe de finalité. Selon les cinq modalités de l'être en acte. Toute essence dépend de l'essai. Donc toute nature dépend de l'essai, dépend de son exister. L'exister est l'acte de la capacité d'être. Tout jugement est relatif à la vérité qui est acte de mon intelligence. Et tout acte de mon intelligence est relatif à la réalité existante. Tout amour est dépendant. Un amour qui n'est plus relatif à la réalité est un amour qui a perdu sa finalité. Voyez la passion. Ce que je disais tout à l'heure. La passion, un amour passionnel, ne se contente d'exister en moi. Puisqu'il n'y a pas de finalité. Tandis que tout amour spirituel dépend d'un bien. Plus loin encore, et vous dites toute capacité d'opération vitale dépend de l'opération vitale et relative à l'opération vitale qui est acte, et toute réalité physique dépend de son mouvement et relative à son mouvement. Les cinq modalités. Ceci, c'est la vision critique de toute ma philosophie. Et elle est saisie dans ces cinq modalités de l'être en acte. Dans ces cinq modalités du principe de causalité finale. Au point de vue critique, c'est très important parce que ça donne, vous voyez, toute la structure de ma pensée. Et vous voyez tout de suite les gens qui pensent et les gens qui ne pensent pas. C'est terrible, c'est comme ça. Parce que vous voyez que les gens qui ne pensent pas ne parlent jamais de vérité. Les gens qui pensent recherchent la vérité. Ceux qui aiment recherchent le bien existant, la personne humaine. Ceux qui vivent recherchent l'acte de l'opération vitale. Et ceux qui savent regarder la réalité physique voient le mouvement. L'imaginaire, alors, l'imaginaire fait que le conditionnement l'emporte sur la fin. C'est le propre de l'imaginaire. Et c'est pour ça qu'il faut tout de suite préciser que ces cinq modalités du principe de finalité que je dois saisir en critique vont impliquer dans l'ordre du devenir l'inverse. Donc dans l'ordre du conditionnement, dans l'ordre du devenir, ce qu'on disait tout à l'heure, la potentialité est antérieure à l'acte. La potentialité est antérieure à l'acte. C'est pour ça que dans l'ordre du devenir, qu'il s'agisse du devenir psychologique au niveau de ma vie affective, qu'il s'agisse du devenir intellectuel dans ma vie intellectuelle, dans l'ordre du devenir, tout acte présuppose une puissance. Et la puissance est antérieure à l'acte. simplement de dire que tout change. Quand on dit tout change, on veut dire plus de finalité. Débrouillez-vous, c'est votre conditionnement. La loi de la jungle. C'est ça que ça veut dire, hein, politiquement, quand quelqu'un dit tout change. Parce que tout change n'est pas un principe. C'est un axiome qui montre que dans l'ordre du devenir, la potentialité l'emporte sur la finalité. Oui. Faut bien saisir ça au point de vue métaphysique, au point de vue critique. Et ça, je crois qu'on peut le saisir assez facilement, comme le jugement d'existence. Mais si on saisit ces deux choses-là, j'allais dire, on est sauvé métaphysiquement. Le primat du jugement d'existence est l'aspect ultime de la finalité. L'être en acte d'exister. C'est les deux choses qui se tiennent. En métaphysique, toujours au point de vue de l'être, la saisie de l'être en acte présuppose la saisie de ce qui est selon la cause formelle. Toujours, l'acte présuppose le point de vue de la cause formelle. C'est tout ce qui est accidentel et relatif à un premier substantiel. Et seul ce qui est substantiel peut subsister par soi. Au principe là. C'est le principe qui est enraciné, qui provient de la saisie de la substance et du rapport de la substance et des accidents. Je demeure là dans l'ordre de la cause formelle, dans l'ordre des déterminations. Toute détermination accidentelle présuppose une détermination substantielle. Et la détermination accidentelle, c'est une détermination qui n'a pas par elle-même sa détermination, qui dépend d'un autre, pas d'une fin, d'une substance, de ce qui est premier selon la forme. Donc vous voyez, en métaphysique, il y a deux principes. Simple. Il y a cinq modalités de l'acte, et lorsqu'il s'agit de la substance, je crois que il y a ce principe net, tout ce qui est accidentel dépend de ce qui est en acte. Ceci permet de tout de suite comprendre réalité existante présuppose toujours une substance. Dans la mesure où cette réalité existante a une certaine autonomie, c'est à partir de là que j'ai découvert, au point de vue métaphysique, l'existence de l'être premier. Alors, troisième moment critique. Un ordre génétique, critique. Donc, premièrement, jugement d'existence. Ceci est. Deuxièmement, dans le jugement d'existence, vous ne saisissez pas de causalité. Vous saisissez un point de départ. Deuxièmement, le jugement c'est extrêmement intéressant de voir que finalité et publicité ici le jugement. Le jugement au niveau de la cause formelle. Tout ce qui est accidentel dépend de ce qui est en puissance, dépend de la substance. Ça c'est au niveau métaphysique, au niveau de la philosophie première. Vous voyez que ici, vous êtes en face d'une conclusion et non d'un principe. Découvrir l'exister de l'être premier, c'est découverte d'une conclusion totalement particulière, puisque c'est l'intelligence qui est obligée de se dépasser complètement. Il est nécessaire qu'il existe un être premier. C'est encore un chemin d'existence, mais avec la modalité particulière de cette nécessité qui s'impose à l'intelligence et qui explique le dépassement de l'intelligence. Puisque je n'ai aucune expérience immédiate de l'être premier. Et j'affirme qu'il existe. Donc, vous voyez, au point de vue appréhension, alors ça, on le verra ça la fois prochaine, parce que c'est très très important. Au point de vue appréhension, je vois que je n'ai aucune nouvelle appréhension de ce qui est. C'est toute la question de la métaphysique chrétienne. Existe-t-il une métaphysique chrétienne ou n'existe qu'une éthique chrétienne? Et grâce à l'éthique, je peux parler d'une philosophie chrétienne. Mais je ne peux pas parler d'une métaphysique chrétienne. Alors comment un hégélien peut-il parler d'une métaphysique chrétienne? Oui. C'est là le problème critique. Si je découvre Dieu par la dialectique, je peux parler d'une métaphysique religieuse. Si je découvre Dieu par le jugement, par la foi, et que je ne peux saisir l'être que par la foi, je peux parler d'une métaphysique chrétienne. Alors tout dépend si je saisis l'être par la foi ou si je saisis l'être par le jugement d'existence.